Alors, bonjour à tous. Donc, vous êtes là pour une conférence sur les surfemmes de la fantasy. Donc, c'est une expression un petit peu étonnante, on y reviendra puisque c'est un mot inventé. Alors, donc, on a pour cette conférence Charlotte Bousquet, à ma gauche, Sophie Jomain et Hélène Larbé. Alors, Charlotte Bousquet, on va commencer par vous parce que quand je vous ai demandé un petit peu quel texte allait pour ce thème, vous m'avez dit tous. Voilà. Donc, on va quand même faire un choix. Si vous pouvez nous parler un petit peu de votre essai. Donc, c'est pas un roman, mais votre essai « Précieuse pas ridicule ». C'est un abécédaire, je crois. Et voilà, nous expliquer en quoi il est relié à ce thème.
Déjà, j'y parle de Marion Zimmer Bradley, donc, voilà, qui est une des pionnières dans la fantasy et qui a une œuvre qui est quand même très féministe. Mais de manière générale, Précieuse par ridicule, donc c'est un abécédaire qui était donc destiné, qui est destiné toujours aux personnes, aux ados, ados, adultes, je dirais de 11, 12 à X années, qui est un abécédaire illustré. Et l'idée, c'était de parler de femmes, de féminisme, d'art et de sexe. Donc voilà, c'est en gros ce que j'ai fait en 26 lettres de l'alphabet. Je ne suis pas sûre d'avoir toutes les lettres, mais je crois que j'ai essayé. Donc je parle de Marion Zimmer Bradley, je parle de, on va rester en surfemme et fantasy, de Xena. Voilà, je parle aussi de thèmes plus sérieux comme l'excision, comme le travail, voilà, l'émancipation. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un thème en tout cas qui... En fait, c'était mon éditrice qui me l'avait proposé à l'époque en disant « De toute façon, ça va te plaire, effectivement. » Mais je ne pensais pas, en fait, en commençant à faire des recherches sur notamment les femmes et l'art, à quel point ça m'ouvrirait des portes et ça m'ouvrirait les yeux sur la manière dont les femmes ont été complètement sous-estimées dans tous les domaines, qu'il s'agisse des domaines artistiques, qu'il s'agisse aussi des domaines de création littéraire, de fantasy, au point que certaines ont pris des pseudonymes masculins. Voilà.
Et alors, sur cette conférence, on va parler plutôt d'un personnage qui est dans l'archipel des Numinés, qui est le personnage de Dionysia, qui est aussi présent dans une nouvelle de l'anthologie Victime et Bourreau. Du coup, on a plusieurs facettes en fait, du personnage. Votre pays s'appelle Matricia. Donc déjà, c'est tout un programme, non?
Alors, Matricia, fait partie d'un archipel. Et en fait, toutes les îles de cet archipel ont des noms d'araignées. Et donc, dans ces araignées, il y a effectivement, alors, Matricia Marance, mais je pense que je vais dire une bêtise, qui est une, je crois que c'est une tarentule, en fait. D'accord. Voilà, donc c'est, mais effectivement, il y a l'idée de tisser sa toile, il y a l'idée, dans Matricia, il y avait effectivement l'idée de la matrice et des mères, voilà.
Est-ce que vous pouvez, du coup, nous parler un petit peu de Dionysia, qui est-elle, d'où vient-elle dans le texte?
Alors Dionysia, en fait, est une jeune femme métisse. Donc dont la mère vient d'une île du sud, dont le père vient de Matricia et en gros qui a été donc fille mère abandonnée, vivant dans une cité qui ressemble un petit peu à la cité des morts en Égypte, sauf que donc là on est dans cet univers gouverné par des femmes. Et Dionysia est l'un des personnages, je dirais, les plus féminins ou plus femmes ou plus accomplis que j'ai écrit, dans la mesure où c'est quelqu'un qui assume sa sorcellerie, qui est extrêmement puissante, qui est une femme de pouvoir aussi, qui va prendre en main la destinée de cette île, qui va venger sa famille. Et voilà.
Un beau programme mal. Déjà.
Oui, non, c'est voilà. Une surfemme. Ou une femme. Peut-être simplement une femme.
D'accord, oui, parce que justement, qu'est-ce qu'on pense de l'expression surfemme ? Je vais vous poser la question. Hélène Larbé, chez vous aussi, on est dans une époque teintée de nostalgie, puisque on est en 1884 quand le cabaret des Fées Désenchantées commence. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce projet ? Parce que vous avez réalisé à la fois le texte et les illustrations.
Oui, en fait, je ne suis pas du tout illustratrice de formation. Je suis historienne médiéviste, donc ça n'a absolument rien à voir. Et l'illustration du texte du projet est venue, on va dire, après. Après l'idée, après le texte, de manière, on va dire, naturelle, mais bon, parce que c'était aussi le plus simple pour moi d'illustrer moi-même mes idées, en fait, ce qui me semblait le plus facile, et puis peut-être le plus cohérent aussi, pour retranscrire au plus près ce que j'avais envie de transmettre dans le texte.
Et le cabaret des fées désenchantées, c'est un cabaret, donc un lieu de spectacle qui est mené par une fée qui est Morte Vanité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Alors, Morte Vanité, c'est une fée. D'une manière générale, les fées de ce cabaret sont plutôt héritières d'une tradition médiévale. Donc, on n'est pas du tout dans les petites fées shakespeariennes, les petits moucherons ailés, etc. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment la fée médiévale qui, pour le coup, je trouve, était et reste extrêmement moderne. Elle incarne la liberté. Elle incarne, c'est un anachronisme, mais vraiment une certaine idée du féminisme. Et la fée médiévale est libre, elle est moderne, elle est, contrairement à la dame médiévale, elle jouit de beaucoup plus de droits, de liberté. Elle n'obéit pas aux mêmes codes moraux non plus, elle a sa propre morale. Mm-hmm. Donc je trouvais vraiment très intéressant de créer des héritières de ces fées médiévales, dont Morte Vanité, effectivement, est tout à fait l'incarnation, vu qu'on retrouve chez elle un petit peu de la déesse Rhiannon, celte, mais aussi un côté de la fée Précine, donc mère de Mélusine, qui est donc la fée, donc ça avait été le cas pour Précine, c'est aussi le cas pour Mélusine, qui sont des fées qui se mettent en couple avec un mortel, et lorsqu'un interdit, un tabou est franchi, donc elles repartent, et c'est vraiment sans pardon, sans retour, et c'est aussi l'incarnation de cette liberté absolue de la fée médiévale comparée à la dame de la même époque. Et donc Morte Vanité est une fée, on va dire, héritière de ces traditions-là, et qui est une fée qui monnaie du temps de vie aux mortels, qui leur rend du temps, de la jeunesse en échange d'années de vie. Donc fée entre les deux mondes, de l'autre monde. Voilà.
Et dans l'histoire que vous racontez au début sur Morte Vanité, la question de la maternité est importante aussi ?
Oui, tout à fait. Morte Vanité, c'est la fée mère. C'est la fée qui, comme Précine, a eu une fille qui lui a été enlevée. Et donc l'intrigue tourne effectivement beaucoup autour de cette filiation avec cette fille qu'elle va s'efforcer de sauvée tout au long du livre, et en même temps ses filles adoptives qui sont les autres fées du cabaret et qu'elle va prendre sous son aile et, je dirais, aimer, essayer de sauver de la même manière qu'elle tente de sauver sa fille.
Sophie Jomain, chez vous on est plutôt dans le présent. Contrairement
pas
pour
du tout
l'instant.
Envie de lire ton livre maintenant, c'est bien.
tant mieux.
Donc chez vous, avec Les Anges, Mordot aussi, la série Félicity Hadcock, on est plutôt dans le présent. Votre héroïne est spéciale. Dites-nous quel est son pouvoir à elle. Elle en a un quand même.
Alors en fait, elle est spéciale, oui et non, parce qu'elle est, a priori, complètement humaine. C'est difficile cette question sans spoiler. Vraiment dur. Donc c'est une humaine qui au contraire est tout sauf une surfemme. C'est une anti-héroïne. Elle est comme vous et moi, elle se ronge les ongles. Elle a des maniaqueries. Sincèrement, c'est une copine. Enfin, on se retrouve en elle, vraiment. Mais elle a une particularité. Elle connaît les vampires depuis longtemps, puisque sa tante en est un depuis 40 ans. Donc jusque-là, pas de souci. Sauf que elle veut juste pas les fréquenter. Hein. C'est pas des bébêtes fréquentables. Donc elle les évite. Et en plus, elle a un talent, elle ne sait pas d'où il provient, mais les vampires qui ont habituellement la faculté de manipuler l'esprit humain sont infichus de le faire avec Felicity. Et ça, elle ne sait pas pourquoi. Moi, je sais, mais je ne vous le dirai pas. C'est, et c'est pas, encore une fois, là, c'est pas un pouvoir qui fait d'elle une surfemme. Ça fait juste d'elle quelqu'un de particulier. Et en réalité, je vais... je suis désolée, je vais te faire le coup de Karina tout à l'heure. tu me pardonnes d'avance.
Oui, il n'y a pas d'ange dans la conférence sur les surfemmes.
Quand on m'a dit, tu vas participer à une conférence sur les surfemmes, je me suis dit, diable ! Pas une de mes héroïnes est une surfemme, super ! Mais en fait, je crois que c'est là où c'est vraiment intéressant. Finalement, je me dis, c'est quoi une surfemme ? Ben, moi, je pense que je suis une surfemme. Je pense que toi aussi, Charlotte. Enfin, on est capable, nous, messieurs, de faire deux choses en même temps. Non, blague à part. Et donc, finalement, j'ai essayé de regarder le thème autrement en me demandant en quoi mon héroïne en était une. Donc, certainement, tu poseras la question après. Et j'ai finalement trouvé plein de choses. Ce n'est pas qu'une dinde, ma dinde.
Donc, nos héroïnes sont souvent plus grandes que nature, mais ont-elles le choix d'être ce qu'elles sont ? Parce que, par exemple, Dionysia, elle part dans la vie avec un sacré paquet sur les épaules, quand même.
Dionysia choisit. Dionysia d'abord choisit. Au départ, effectivement, il y a la nécessité de survivre. Quand on est une gamine rejetée par sa propre mère dans une cité pourrie où vous avez des criminels, des proxénètes, en même temps ça veut dire que criminel et proxénète c'est pas la même chose. Donc, voilà, des criminels, proxénètes, des démons. Elle crève de faim, sa mère crève d'une espèce de peste aussi. Donc voilà. Donc au départ, elle a vraiment une véritable rage de vivre. Et elle va se mettre en apprentissage chez un sorcier démoniste. Mais pareil, ça, c'est quelque chose qui ne lui pose pas particulièrement de problème. C'est après que Dionysia fait des choix. Au départ, c'est vraiment une envie de vivre, une envie de s'en sortir. Plus tard, hein, puisqu'on la suit dans Matricia, on la suit vraiment de son enfance à, je dirais, ses 30-35 ans accomplis. C'est à partir du moment où elle va plus ou moins tomber amoureuse, où elle va rencontrer une jeune femme qui, elle, est née avec une petite cuillère en argent dans la bouche, mais qui va devenir sa meilleure amie et qui est pourtant d'une naïveté incroyable, que donc Dionysia va faire des choix, et ces choix, ça va être la vengeance, ça va être le pouvoir, c'est la première fois que je fais une héroïne qui ne fuit jamais. Dans Arachnae, oui, Théodora, elle est capable de dessouder une lamia d'un battement de cils, elle n'a aucun problème à tuer. Le problème de Théodora, c'est ses relations avec les autres, c'est s'attacher, c'est aimer. Nola, elle pleure énormément, elle s'automutile beaucoup. Elle aussi, elle est partie avec pas mal de handicaps dans la vie, en fait. Mais c'est quelqu'un qui est très passif. Dionysia, pas une seule seconde, même quand elle fait des erreurs, pas une seule seconde, elle ne regrette. Et c'est quelqu'un, c'est en ça pour moi qu'elle a, que c'est quelqu'un qui a énormément de puissance en elle. Mais c'est pas forcément sa magie. C'est je suis capable de faire des choix, je suis capable de les assumer, je suis capable de me dire que je fais des erreurs. Et alors, je crois que c'est surtout ça, quoi.
Et elle va avoir à faire un choix donc par rapport à sa famille. Est-ce qu'elle va retrouver son père ? Est-ce qu'elle va être son fléau ? Ou est-ce qu'elle va sauver la famille Tangeli ?
Ah ben non, elle détruit elle. Hein. Elle retrouve son père et elle se venge. Et elle se venge de manière qui est pareil, qui, je dirais, qui a son image, c'est-à-dire de manière impitoyable et sans aucune, sans aucune morale humaine.
D'accord.
Voilà, c'est quelqu'un de très frais. Mais c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que justement, il y a ce côté entier.
Je comprends.
Hélène Larbé, on n'a pas vraiment le choix d'être une fée. On est fée, on est femme. Et on a l'impression un peu que les fées, malgré tout leur pouvoir, elles ont du mal en fait à elles ne contrôlent pas forcément leur destin. Il y a une contradiction quand même, non ?
Oui, il y a une contradiction parce que je voulais justement que la fée s'efface derrière la femme. Et je pense que ce qui caractérise le plus ces fées, c'est qu'elles sont très, très humaines et qu'elles sont vraiment traversées par des sentiments et des situations humaines. Et avec, donc, durant tout un siècle, vu qu'elle traverse le cabaret et sur un siècle d'existence. Donc en traversant voilà, une condition aussi féminine sur le siècle. Et ces faits-là, effectivement, elles sont aussi, je dirais, elles sont prisonnières un peu du destin, de la fatalité, comme elles le sont quelque part aussi de ce cabaret, mine de rien, parce que bon, c'est à la fois un cabaret qui les sauve, qui leur permet de survivre, mais c'est aussi un cabaret qui les emprisonne, parce qu'en dehors de ce cabaret, j'ai envie de dire, il y a peu d'espoir pour elles, donc... C'est un petit peu, oui, ce sont des faits désenchantés. Hein. Elles naissent faits exactement comme vous l'avez dit, comme elles naissent, comme on est femme, et c'est tout à fait ça que j'ai voulu faire passer dans le livre.
Mais y a-t-il un peu d'espoir quand même ?
Oui, il y a de l'espoir justement parce qu'elles sont très humaines. Et que ben, l'espoir est désespérément humain, et que malgré tout, malgré toutes les épreuves, ça reste des faits, j'allais dire des femmes, le lapsus, ça reste des femmes très fortes qui se relèvent à chaque fois, malgré les épreuves, qui continuent d'aimer, qui continuent d'espérer, qui continuent de se battre, qui continuent de briser les codes aussi. Et donc... voilà, il y a l'espoir qu'elle porte en elle, et cette force parfois insoupçonnée qu'elle découvre et qui leur permet de survivre ou de vivre, tout simplement.
Sophie Jomain. Moi, je me suis demandé, en lisant votre texte, Félicité Adcock, l'Ottomain, si le fait, comment dire, si votre héroïne n'était pas aussi pas une surfemme, parce que vous, en tant qu'auteur, vous vous amusiez à la mettre dans des situations cocasses, c'est-à-dire que certes, elle peut résister à l'hypnose vampirique, mais qu'en fait, elle va pas le faire parce que elle va prendre un verre de vodka, puis deux, puis trois, puis qu'elle va se retrouver hypnotisée par le, enfin, vampire. On pense que c'est un vampire, mais voilà. C'est aussi un peu vous en tant que...
Ben voilà. Non, pas, enfin, en plus, elle va dire que je suis sadique et vous donnez raison à certains. Non, super. Non, mais en fait, elle ne fait pas exprès d'être comme ça. Elle ne décide pas, je ne veux pas que tu lises en moi. C'est comme ça. Quand elle a affaire à un vampire, il peut toujours essayer de s'introduire dans son esprit, il n'y parvient pas. Elle ne le contrôle pas, elle ne sait pas faire... Elle n'est juste pas manipulable par ces créatures-là. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'elle décide. Bien sûr, ça lui file quelques coups de main. Enfin, surtout parce que je suis une vilaine et que je la mets dans une situation pas possible. C'est son arme. Malgré elle, et tant mieux. Mais elle ne décide pas. Je crois que la force de Felicity, paradoxalement, vient des ennuis que je lui impose. Il faut bien prendre la responsabilité à un moment donné. Hein. Elle devient plus forte, mais un peu, encore une fois, à l'image des femmes d'aujourd'hui. Vous avez deux choix. Soit vous prenez des claques, vous faites une bonne dépression nerveuse et vous vous suicidez. Soit vous prenez des claques, vous faites une bonne dépression nerveuse et vous vous relevez. Et par chance, la plupart des gens se relèvent. Et Felicity ne déroge pas à la règle. À chaque fois qu'elle a des problèmes, elle devient plus forte. Elle est de plus en plus capable de gérer les situations. Elle mature un peu sa vie, son caractère, ses choix. Et ça fait d'elle quelqu'un d'exceptionnel. Mais au départ, c'est une simple vendeuse de chocolat. Elle ne fait rien d'autre. Et elle va se découvrir hein, à travers ses luttes, les bâtons dans les roues. Elle va se découvrir une force qui n'est effectivement pas celle que j'aurais. J'admire d'ailleurs énormément sa patience. Moi, ça ferait bien longtemps que de paire de claques et au lit. Hein. Elle résiste. D'accord.
Charlotte Bousquet, votre héroïne est une sorcière du destin. Ça la rapproche d'ailleurs de Morte Vanité, qui est une fée fatidique. En quoi consiste son pouvoir exactement ?
Dionysia a le pouvoir d'influencer la destinée des gens. Mais alors, le truc, c'est qu'elle est... Ouais. Alors, on va reprendre depuis le début. L'archipel des Numinés est en général dirigé par des femmes, donc des femmes politiques et des femmes prêtresses. Ces femmes prêtresses donc, sont la triade de la jeune fille, la mère et la sorcière, qui incarnent les trois âges de l'humanité. Ces trois tisseuses donc, tissent le destin des hommes et en cela peuvent les influencer. Il se trouve que Dionysia a hérité de ce pouvoir d'influence. Elle est capable de prédire ce qu'il se passe, elle est capable de donner finalement vie à une malédiction. Et en plus de ça, du fait de son histoire, elle a quand même une capacité à gérer des démons et pactiser avec eux qui est assez incroyable. Et elle est capable d'hypnotiser les gens, un petit peu comme des vampires. Quelque part, elle a toutes les clés pour manipuler les gens. Dionysia va utiliser cela finalement en toute connaissance de cause. C'est vrai que je me rends compte, c'est un personnage que moi j'aime beaucoup, mais qui n'est pas forcément très sympathique, à la fois pour se venger et en même temps quand même pour protéger ceux auxquels elle tient, c'est-à-dire pas grand monde, sa meilleure amie, quelques personnes auxquelles elle va s'attacher de ci de là, et puis finalement l'archipel des Numinés en l'occurrence, puisqu'elle est une incarnation de cette triple déesse. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question.
Oui,
si, c'est bon.
Ok.
Hélène Larbé, vous voulez nous parler du pouvoir de Mortvanité ou d'une autre fée, s'il y avait une autre fée dont le pouvoir dont vous vouliez parler?
Le pouvoir de Mortvanité est donc de négocier des contrats de vie auprès des mortels pour qu'ils lui accorde des années de vie, donc pour retrouver donc jeunesse, beauté, santé et tout le package, j'ai envie de dire. Et donc elle collecte le temps et le temps qu'elle soustrait donc aux mortels. Mais bon, les pactes féeriques sont toujours dangereux, sont toujours à double tranchant. Donc bien sûr, elle ne prévient jamais combien de temps il reste. Et effectivement, la personne qui signe peut mourir dans les heures ou dans les minutes qui ont suivi la signature du pacte. Hein. Donc, son but étant de collecter de plus en plus de temps dans un but bien précis. Bon, je ne vais pas spoiler, je ne vais pas révéler parce que sinon il n'y aura plus de surprise. Mais donc, elle fait ça. Ce que je peux dire, c'est qu'elle aussi, elle fait ça dans un but qui est pour le coup très, très humain. Donc sa cruauté, on va dire, elle est justifiée pour les sentiments qu'elle a pour les gens qui l'entourent, ses proches, les personnes qu'elle aime. Et sa cruauté est dirigée par son amour, en fait.
Alors. Et est-ce qu'elle a des ennemis? Est-ce que les fées du cabaret ont des ennemis?
Alors, je dirais que les fées du... Là aussi, le principal ennemi des fées du cabaret, c'est le temps, vu que l'idée est que ce sont donc des fées qui ont été oubliées, donc fées ou sorcières qui ont été oubliées, qui ont été malmenées, que ce soit dans les contes traditionnels ou que ce soit par les humains. Donc potentiellement, le monde extérieur reste l'ennemi de ces fées qui se battent pour survivre et qui trouvent dans le cabaret, dans cette espèce de famille et de solidarité aussi féminine qui se crée dans le cabaret, dans ce théâtre girovague, donc une sorte de scène, d'enclave dans laquelle elles espèrent retrouver un âge d'or perdu depuis longtemps, qu'elles rêvent, qu'elles fantasment de pouvoir retrouver, mais bon, un âge d'or qui malheureusement n'a plus du tout l'éclat d'antan et qui, derrière les phares et les paillettes, est plutôt défraîchi, je dirais. Mais toujours avec cet espoir, bien sûr, et cette il persiste toujours en elle ce désir, cette force. Et bon, ensemble, il y a aussi ça, ce côté de se recréer une famille de cœur et ensemble, elles arrivent quand même malgré tout à survivre.
Charlotte Bousquet, je me rappelle que dans l'anthologie Victime et bourreau, Dionysia est emprisonnée, on l'accuse de faire commerce avec les démons. En fait, c'est pas elle qui va avouer, elle va retourner la situation et en fait, c'est les hommes qui vont se suicider autour d'elle. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi le pouvoir, justement, cette surfemme qui prend le pouvoir des mots et qui retourne en fait contre les hommes leur discours?
En fait, ce passage-là, en fait, c'est surtout qu'elle retourne le désir de son bourreau contre lui-même. En fait, c'est pareil, quelque chose qui est totalement banal, c'est que vous êtes quelqu'un comme Sophie, comme vous, on existe, et puis il y a des gens qui vont, pas forcément des hommes, mais là en l'occurrence oui, qui ne vont pas supporter qu'on leur échappe. Donc, qui vont développer une espèce d'obsession complètement malsaine, donc au travail, ça peut devenir du harcèlement au travail, ça peut devenir du harcèlement sexuel, ça peut devenir en gros n'importe quel pervers narcissique finalement qui va vouloir nous étouffer, nous détruire parce qu'il ne peut pas nous posséder. Et effectivement, dans Victime et bourreau, Dionysia se retrouve emprisonnée, suite à des dénonciations complètement idiotes. Par un homme qui devient mais littéralement fou de désir pour elle, va la torturer et elle va retourner par des mots et en lui inspirant aussi des cauchemars parce que mine de rien ses pouvoirs mentaux elle les tire aussi quand même de pacte avec le démon même si elle le nie farouchement mais c'est pas le problème non plus elle va les retourner contre ces hommes et les détruire avec leur propre faiblesse, leur propre désir, leur propre folie. Donc c'est vraiment c'est le pouvoir des mots puis c'est le pouvoir de quelque part de jeter la réalité en face des autres aussi, dire mais en fait Regarde-toi et pleure. C'est plus ça, peut-être.
Et voilà.
Etoc était pas mal. Même si le Etoc est un peu mortel, mais c'est l'idée.
Sophie Jomain, ce qui m'a frappée aussi dans votre texte, c'est qu'à un moment, il y a une discussion entre l'héroïne et l'ange, Thérèse, qui ne se prend pas non plus pour une cerise, il faut quand même le dire. l'héroïne dit, pour qui se prenait-il à me balancer des choses pareilles? Quel genre de fille, croyait-il que j'étais? Et là, je trouve qu'on en revient, on est au 21e siècle, hein, on en revient encore à la question de la réputation, qui est quelque chose qu'on a récupéré des siècles précédents, où pour se marier, une fille devait avoir bonne réputation, etc., etc. Et c'est toujours les femmes qui doivent avoir une bonne réputation.
Ah bon?
Disons que le terme surhomme existe, le terme surfemme pour cette conférence n'existe pas, le mot fille facile existe et le mot homme facile n'existe pas. Enfin, l'expression ne veut rien dire.
On appelle ça un donjon, non?
Oui, mais c'est moins.
Mais oui,
c'est chargé.
Pardon, le monde donjon est quand même chargé d'admiration.
Ah oui, alors qu'une fille facile est une salope, en fait. Disons-le. C'est...
Eh bien, beach power.
En anglais, ça sonne mieux.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je notais hier avec une amie, en Angleterre, il y a une charmante ville qui s'appelle Beachfield. Okay. Sympa, non? C'est un champ où vous pouvez cueillir des salopes. En gros, c'est ça. Voilà, pardon. Mais c'est ça. Enfin non, blague à part. Je ne me suis pas posé la question, en vrai. Parce que... là, Felicity se moque de ce qu'on pense d'elle, mais elle n'aime pas qu'on lui donne une autre image que ce qu'elle pense d'elle. C'est plutôt ça, genre, il me veut quoi, lui? Mais il pense que je suis quel genre de fille? Non, mais c'est surtout que lui, il est insupportable, d'arrogance, il est beau, etc. Ouais... Et en plus, il a raison, c'est ça. C'est que c'est pas. Ce que je veux dire, c'est le mec, il n'a pas des milliers, il a des millions d'années. Et c'est un ange, donc on va pas lui faire, quoi. Mais non, vous me plaisez pas. Non, mais moi, je le vois bien que je vous plais. Mais non, vous me plaisez pas. Enfin, faut pas lui faire. Il le sait. Donc, il a gagné d'avance. C'est insupportable. Hein. Et je crois qu'elle, c'est ça, ce truc, c'est qu'elle n'aime pas se sentir faible, hein, mais que ce soit devant lui ou devant quelqu'un d'autre. Donc elle. mais quel genre de fille il pense que je suis. Et c'est à ce moment-là où on a envie de lui dire, eh, oh, poète, poète, parce qu'au final, bah, t'es bien le genre de fille qu'il pense que tu es.
Oui, parce que quand ils vont avec elle et qu'il redébarque dans sa chambre, elle ne résiste pas très longtemps quand même.
Ouais, mais il le savait, non? Voilà. C'est que, ouais, c'est ça. C'est aussi... si vous voulez, Terence, c'est aussi un bon moyen de se découvrir elle-même. Elle ne se connaissait pas comme ça. Et de toute façon, c'est un bon petit père. Il va falloir le suivre plus loin. Mais c'est, je crois que c'est pas mon personnage préféré, soit. Mais c'est le personnage, et on l'apprendra dans les tomes qui viennent, qui va développer en elle le plus de puissance. Voilà. Donc, c'est pas un mauvais bougre. Hein. Il est arrogant, mais...
Les femmes qu'on voit sont aussi victimes d'elles-mêmes, non ? De leurs sentiments, pour Dionysia, de leur sens.
Non. Je dirais qu'elles peuvent être victimes, effectivement, de leurs sentiments. Elles sont victimes de ce qu'elles ressentent, mais j'ai envie de dire, ça, c'est un petit peu comme tout le monde, comme tout un chacun. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une différence entre hommes et femmes. On est tous victimes de nos sentiments, de... notre passé, de nos caractères aussi, qui font ce que nous sommes. Donc,
c'est justement ce qui est très intéressant dans les romans, c'est que quel que soit le personnage, masculin ou féminin, je sais pas, moi, on prend l'ange du chaos, je sais pas si certains l'ont lu, le personnage principal a un caractère débordant de logique, mais aussi d'agressivité, de rébellion, de détermination. Il a un but, une direction. Et quand est-ce que ça flanche ? Quand les sentiments arrivent. Donc c'est pas vraiment effectivement le propre des femmes. Je crois qu'à un moment donné, quand on s'est fixé dans la vie, hein, un but en soi, on peut être extrêmement déstabilisé, voire totalement anéanti par un sentiment, par quelque chose qu'on n'avait pas prévu. On a la résilience qui flanche, en réalité. Et c'est ce qui fait nous des êtres humains. Et je trouve qu'il serait très étrange, dans un livre écrit par un homme ou une femme, qu'aucun personnage ne flanche jamais. D'ailleurs, je ne connais pas un méchant qui ne flanche jamais. Même à travers l'histoire, ils ont pu être terrible, sauvage, sans cœur. À un moment donné, il y a toujours quelque chose qui les fait flancher. Un enfant, un souvenir, une femme, un objet. On n'est pas sans faille. Et finalement, on le retrouve bien dans les écrits à travers nos super-héros. Le mal absolu, je crois, n'existe pas. Comme le bien absolu n'existe pas, d'ailleurs.
Ça dit quelqu'un qui écrit sur les anges.
Les sentiments, oui. Je pense que c'est un petit peu comme Sophie, qu'en fait, on se construit avec nos failles, avec nos sentiments, et qu'on peut effectivement... Alors, je pense qu'on peut complètement... on peut, mais pas forcément consciemment. C'est-à-dire que je suis en train de dire un truc sur les violences sexuelles et le stress post-traumatique. Donc oui, effectivement, on peut faire en sorte de ne plus rien ressentir. De ce que j'ai cru comprendre, c'est vraiment en se procurant des shoots de je ne sais plus quelle hormone qui fait qu'on est complètement disjoncté. Donc à un moment donné, quand on subit un choc ou une agression très violente, le cerveau disjoncte et certaines personnes ont besoin de disjoncter en permanence et finissent par être complètement coupées du monde. Et à ce moment-là, effectivement, il n'y a plus de sentiments. Il n'y a plus d'émotions. Il y a probablement des sentiments, mais il n'y a plus d'émotions. Mais en soi, écrire sur le vide, c'est pas super intéressant. Donc dans les romans, nos personnages ont des failles. Nos méchants, les miens, c'est quand même des gens qui sont complètement cabossés par la vie. L'adversaire principal de Dionysia est un pion, mais qui a été red dingue amoureux de quelqu'un. On lui a tué celle qu'il aimait. Il est devenu fou et voilà. Et c'est quelqu'un qui n'a pas arrêté finalement de se prendre les pieds dans des tapis, qui à chaque fois s'est fait avoir, qui est une loque, mais qui est devenue une loque par le fait de ses sens, de ses sentiments. Même Dionysia, qui est un peu, effectivement, qui est obsédée par sa vengeance. Et bah, il y a des moments où elle se dit que plutôt que tuer quelqu'un, ce serait bien de l'envoyer loin, quand même pour sa propre survie, puis parce qu'elle aime bien pouvoir continuer à se regarder dans une glace aussi. Simplement ça. Donc c'est, je pense que c'est très très important, et c'est ce qui fait l'essence, les sentiments, les émotions, les échecs, c'est ce qui construit nos personnages et ce qui fait l'essence de nos romans.
Et quels ont été, vous, vos modèles de fictionnels, de femmes, de surfemmes?
Alors pour Matricia, ça a été super simple, c'est que j'ai lu La foire aux vanités de Thackeray. J'ai adoré le personnage de Becky Sharp, qui est une fille effectivement qui part de rien, qui est intelligente, comme le dit son nom, hein, Sharp, ça veut dire acérée, et qui va réussir à épouser quelqu'un qui la met dans la haute société, qui va s'en tirer, qui est manipulatrice, qui est présenté alors d'un point de vue toujours très anglais, c'est-à-dire qu'ils ont toujours, je trouve, les écrivains anglais du 19e siècle, un certain détachement vis-à-vis de leurs personnages, donc qui est, je pense, une manière aussi de faire passer plein de choses, voilà. Mais qui est quelqu'un, c'est une héroïne que je trouve très très attachante. Donc il y a elle. Dans les modèles d'héroïnes féminines, j'ai redécouvert Colette il n'y a pas très longtemps, La Vagabonde, j'ai adoré, je trouve que c'est assez merveilleux. Et puis après, c'est surtout des lectures. Toutes les lectures, je crois que j'ai lu plein de romans dont les femmes étaient des héroïnes. Donc voilà.
Vous avez envie de nous parler de vos modèles?
Bon, moi, je vais revenir encore aux origines, mais bon, effectivement, toutes les fées médiévales et héritières des traditions celtiques ou nordiques, voilà, qui sont vraiment très modernes, qui sont vraiment libres et étonnantes. Et donc voilà, ça déjà dans ces littératures anciennes, je pense que bon, en plongeant plus loin aussi, donc dans les mythes, effectivement, et les légendes, on trouve aussi des personnages très intéressants. Et puis après, effectivement, au fil des lectures, on a toujours, on peut toujours trouver effectivement des personnages intéressants. Après, je pense aussi qu'ils sont intéressants dans un contexte, dans une situation qui les met aussi en place. Ils ne sont pas seulement intéressants en soi. Ils sont intéressants parce qu'ils existent dans un certain contexte, parce qu'ils existent dans une certaine légende, dans un certain mythe. Et c'est aussi ce qu'on leur oppose qui fait qu'ils sont intéressants.
Alors, j'ai pas de modèle de fiction. Tout simplement parce que mes personnages sont ancrés dans la réalité. Donc, j'ai jamais eu de fan attitude, vraiment, envers une personnalité. Pas que je n'admire pas certaines personnes. Je parle de gens publics. Chacun de mes livres, par exemple, Les Étoiles de Nocette, qui est là, chaque personnage est vivant dans ma vie. C'est le caractère de mon frère, c'est ma grand-mère, c'est mon père. Et mes héroïnes reflètent, malgré moi, je ne fais pas exprès, les valeurs qu'on m'a inculquées. Et finalement, la personne dont je suis le plus admirative par sa force, sa détermination, je vais faire très classique, mais c'est ma mère. Et du coup, quand je décris une héroïne qui est en difficulté, c'est souvent, tiens, qu'est-ce qu'aurait fait ma mère? Comment aurait-elle réagi? Et voilà. Donc, finalement, j'arrive à un modèle qui est extrêmement concret. Ensuite, on peut toujours admirer des femmes de l'histoire, hein, qui se sont battues pour nos droits, battues pour notre liberté. On pourrait en citer des tas. Mais étrangement, ce ne sont pas elles qui me viennent à l'esprit quand j'écris des histoires. C'est fatalement quelqu'un qui est proche de moi. Et Chère jeune femme avisée, qui est une romance contemporaine que j'ai écrite l'année dernière, tout le personnage a été inspiré d'une maman dont la fille était dans la classe de la mienne et était en rémission d'une leucémie. Et lorsque j'ai rencontré cette petite fille haute comme trois pommes, qui avait la taille d'un enfant de 2 ans alors qu'elle en avait 4, qui est née comme ça, et elle avait encore des tuyaux dans le nez, et elle circulait, et elle avait toujours sourire banane, c'est exceptionnel cette gamine. Et un jour je suis allée à la rencontre de ses parents, et là j'en aurais pleuré quand j'ai vu la manière dont vivaient ces gens. Moi, je panique pour un bobo sur le doigt sur ma fille, alors qu'eux, ils sont là, elles jonglent entre la vie et la mort. Et ils étaient souriants, ils profitaient de la vie à pleines dents. Et je trouvais que cette famille, que cette mère de famille était une femme exemplaire. Moi, je la qualifie de surfemme. Sincèrement, je peux pas savoir comment j'aurais réagi. Mais là, comme ça, moi, je suis tombée à genoux depuis longtemps. Et elle était là, debout, à faire comme si il se passait rien. Et j'ai eu envie que mon personnage principal soit le reflet de cette nénette. Et que d'un drame, finalement, en plus ça touche des enfants, alors ça nous brasse, j'ai eu envie que d'un drame ressorte quelque chose d'extrêmement positif, bah, l'espoir en fait, que les choses avancent. Donc oui, voilà, je n'ai pas de modèle connu, mais plein de modèles autour de moi qui méritent vraiment de s'arrêter et d'analyser et d'utiliser.
D'accord. Est-ce que vous avez des projets avec, ou sans surfemme en fait, à venir?
Oui. Avec, plutôt. Voilà, pouvoir encore aborder de manière encore plus profonde et plus affirmée certaines choses par rapport à la femme, à l'image de la femme, etc. Donc, dans ce livre, il y a déjà certaines choses assez dures par rapport à, on va dire, à des choses qui pourraient tout à fait se refléter dans notre société actuelle, telles que bon, la violence faite aux femmes, etc. Bon, aussi le désir d'indépendance et la réalisation par l'indépendance, etc. Bon, donc déjà, il y a des sujets qui sont très actuels. Mais là, dans le prochain projet, ça sera encore plus marqué, je l'espère. Et parce que je pense que c'est désespérément actuel.
Et ce projet a un nom ?
Un nom provisoire, mais qui n'est pas encore fixé. Donc, pour l'instant, c'est en préparation.
Charlotte.
Oui, encore plus féministe que d'habitude. Non, mais là, j'avais clairement annoncé la couleur à mon éditrice. Quand j'ai envoyé le synopsis, je lui ai dit, voilà, on parle de femmes, de lapidation, de conditions des femmes, de résignation et ce genre de choses. Donc j'ai commencé un roman transgenre, parce que je suis partie sur une dystopie, mais c'est pas une dystopie, sur une société dans laquelle les femmes sont utilisées, jetées, emprisonnées, et là, ma grande difficulté a été au départ de ne pas m'enfermer dans les problématiques qu'on a en ce moment avec le voile et l'islamisme intégriste. Et donc, je fais partie d'une citation de Schopenhauer qui a fait un traité sur les femmes, Schopenhauer, et c'est un grand frustré. Et il explique, entre autres, que les femmes sont utilisables entre 18 et 28 ans, parce qu'en même, en gros, là, c'est le moment qu'elles sont jolies, fécondes, et de toute façon, il ne faut pas leur laisser les enfants parce qu'elles n'ont pas de cerveau. Mais la citation que j'ai choisie, c'est qu'elles sont nées, en gros, pour être inférieures et obéir. Donc Schopenhauer, 18e, 19e siècle, Allemagne. Bon, ça reste finalement assez d'actualité. Voilà, il suffit de se balader dans la rue, on a encore plein de trucs... sexiste et autres. Donc je pars de ça et j'essaye de travailler sur des personnages qui essayent de s'en sortir et aussi sur le problème de résignation, c'est-à-dire que quand on est dans des sociétés opprimées, évidemment, c'est une histoire de femme, mais dans n'importe quelle société où on vit dans une dictature et en oppression, en fait, on se rend compte que les gens finissent par accepter l'impossible, comme une norme. Et c'est là-dessus aussi que j'ai envie de travailler. Voilà.
Merci. Sophie.
Je ne vais pas non plus finir par une touche super joyeuse, hein, c'est pas grave. Non, mais c'est rigolo de voir finalement à la fin ce regroupe. Bon, bien sûr, la suite de Felicity Hadcock. Mais enfin, ça, c'est supposé faire rire, donc on va pas là. Pour ceux qui ont lu mes romances, « Chère jeune femme avisée d'un commun accord », tout le monde sait qu'à chaque fois, je traite mais un sujet un petit peu brûlant, un petit peu grave. Et le troisième sujet, je traite donc de la perversion narcissique. Donc mon héroïne en fait a subi la perversion narcissique tout en... Elle en avait conscience, disons, pendant près de 20 ans avec un homme qu'elle n'a soit jamais aimé, mais pour des tas de raisons, elle a dû subir cette perversion. Et un jour, le déclic se fait chez elle et elle s'en va. Elle devrait recouvrir sa liberté et c'est tout l'inverse qui arrive. Il lui pourrit la vie, il lui fait des choses absolument abominables. On apprend tout ce qu'il lui a fait, tout ce qu'il va faire encore pour asseoir son autorité, sa puissance, pour être vulgaire, ce qu'il fait bander, quoi, en gros. Et elle va avoir une force énorme, se reconstruire, redevenir une femme, en quelque sorte, récupérer sa confiance, un travail, etc. Le grand défi, c'est de ne pas faire un texte larmoyant. Et quand on voit le sujet, on a tous envie de se dire, purée, on va se prendre, se mettre une corde.
Tu te dis que c'est un livre d'utilité publique.
Mais en fait, Charlotte, c'est pire que ça, c'est l'histoire d'une de mes amies. Et donc...
Et ben voilà, c'est...
Donc,
on en a tous connu, toutes connues, des pervers, c'est l'horreur.
Et en réalité, je trouve qu'on est dans un mouvement, là, où on a de plus en plus envie que les hommes et les femmes partagent avec nous cette réalité chez certaines personnes. Je le vis pas, j'ai un mari extraordinaire... Moi, je suis une femme. Moi, j'ai dit tout le contraire. Moi, depuis que je suis mariée, je suis libre. Vous voyez ? Donc, c'est tout l'inverse. C'est super. Merci, chérie. Si tu m'écoutes, c'est bien. Néanmoins, dans notre époque si moderne, avec des hommes qui sont ouverts d'esprit, parce que vous êtes quand même, les hommes, une majorité à penser que les femmes sont égales à vous. Hélas, c'est pas vous qu'on entend le plus, c'est pas vous qui faites la une des journaux. Qui était ce groupe qui disait « on se souviendra de ceux qui commettent un crime un jour, hein, mais pas de cet homme extraordinaire, en gros, qui avait une vie ordinaire, et que ça faisait de lui quelqu'un d'extraordinaire ». Et donc, notre société, c'est ça, on entend toujours parler de choses graves, mais finalement, les bonnes valeurs, on les entend peu. Et j'ai envie, moi, à travers ce roman, j'ai pas du tout envie de diaboliser les hommes, parce que la perversion narcissique, je connais aussi des femmes qui sont extrêmement douées en la matière et qui sont capables de détruire leur conjoint. Je veux juste montrer que tout n'est pas perdu. Quand on a vécu dans le déni de soi-même, hein, parce qu'on vit derrière l'autre, on est capable de remonter, on est capable de se remêler à la société et que l'émulation aide à grandir. Et mon personnage d'Annabelle va gravir cette étape avec ses dents, avec ses ongles, avec ses petits muscles. Elle va y arriver, mais elle va devoir se battre tout le temps parce que c'est vraiment une saloperie, son ex-mari. Et 20 ans après, c'est toujours d'actualité. Donc c'est vraiment un défi, ce livre d'écriture. D'abord parce que je ne l'ai jamais vécu. Je ne sais pas ce que c'est, donc... Et quand on vous raconte ce que c'est pas facile d'entendre, d'admettre que ça peut exister chez les gens. Pire, d'admettre qu'on n'a jamais rien vu. Je crois que c'est ça le pire. En tout cas, un défi que je devrais relever avant la fin de l'année. Touchons du bois et du singe.
Merci beaucoup. Cette conférence s'achève sur ces beaux projets. Donc, vous pouvez bien sûr retrouver les auteurs sous la vue du livre et dans les conférences à venir. Merci.